Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Paulien dans l'invité du jeudi. Alors c'est une première, on va le dire, hein. C'est la première fois qu'on fait ça, pas qu'on va présenter un livre, puisque des livres on en présente assez souvent, mais c'est la première fois qu'on se retrouve dans une médiathèque, déjà la médiathèque de Saint-Paulien. Ben, sur l'initiative de Pascal Blasi, elle a choisi de venir présenter le livre de Albert Duclos, Les Amours prisonnières, avec des lectrices. On a quatre lectrices qui l'ont lu, ce livre, Monique, Michel, Annie et Chantal, et qui vont réagir à la suite de la présentation de ce livre, voir ce qu'elles en ont pensé. Alors tout de suite, je leur dis, il ne faut pas faire des compliments, Albert, hein. S'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, non mais ça, il ne vous en tiendra pas compte, ne vous inquiétez pas, je le connais depuis longtemps. C'est un brave garçon, hein, Albert, on se connaît depuis longtemps maintenant.
Oui, Jean-Pierre.
Donc, Les Amours prisonnières, alors on va parler de ce livre qui se passe, la plupart de l'intrigue se passe pratiquement à Saint-Paulien, un petit peu en Allemagne, on va le voir, hein, avec cette idée qu'a eu Albert, il va nous en parler, en fait, de partir de la guerre de 14, d'arriver à la guerre de 39-45, pourquoi? Eh bien, vous allez le comprendre tout de suite. Alors, Albert, Les Amours prisonnières, l'idée t'est venue parce que je crois que tu as eu le cas dans la famille.
Oui, voilà. Moi, je suis fils et petit-fils de paysans, comme beaucoup de gens. Et en août 14, au moment de la déclaration de guerre, mon grand-père maternel, parce que du côté de mon père, c'était pas des paysans, mais du côté de ma mère, c'était des paysans, ma grand-mère maternelle, donc, s'est retrouvée toute seule, puisque mon grand-père était mobilisé, il est parti sur le front. Et elle s'est retrouvée toute seule, avec une ferme sur les bras, à faire tourner, et puis surtout quatre enfants, dont ma mère, à élever. Et il faut quand même dire la vérité, en 14-18, ce sont les femmes qui ont assuré le fonctionnement économique de la France. Mais dans les fermes, il y avait quand même des travaux qui étaient extrêmement durs. Et ce qui s'est passé de chaque côté du Rhin, aussi bien en France qu'en Allemagne, et c'est là qu'on voit l'imbécilité des guerres, lorsque des paysans français étaient faits prisonniers par les troupes allemandes, on envoyait ces paysans travailler dans les fermes allemandes. Et lorsque des paysans allemands étaient... Parce qu'on prenait que les paysans, parce qu'il fallait qu'ils sachent travailler tout de suite. Lorsque des paysans allemands étaient faits prisonniers par des troupes françaises, on les envoyait travailler dans des fermes françaises. Et alors, ma grand-mère a fait sa demande, qui a été acceptée, et elle a reçu donc un prisonnier allemand. Et ça a été pour elle une très grande ouverture d'esprit, parce que dans la propagande française, on présentait les Allemands comme des grands teutons, des géants qui se nourrissaient de chair humaine, etc., etc. Et puis en fait, elle a vu arriver un tout petit maigrichon qui avait été mal nourri, qui n'avait pas mangé depuis longtemps. Et puis finalement, elle l'a fait manger, l'a soigné, puis ça s'est... Il l'a aidé pendant les 4 ans de la guerre avant de repartir en 18. Et ça, elle m'en a souvent parlé, ainsi que ma mère, parce que ma mère se souvenait, elle l'avait vu, puisque ma mère était née en 1907, donc en 1914, elle avait 7 ans, donc à 7 ans, on a de la mémoire, on se souvient. Et ça a gambergé pendant longtemps. Et puis est arrivé 2014, et là... on sait que pendant ces 4 ans, donc ça va se terminer en 2018, nous célébrons le centenaire de la guerre de 14-18. Et moi, je me suis dit, en tant qu'auteur, tu devrais quand même aussi mettre la main à la pâte. Et alors donc, j'ai écrit déjà 3 romans qui se passent en 14-18 pour célébrer le centenaire. Alors celui-ci, c'est le premier, voilà.
Alors, Les Amours prisonnières, donc après, bien sûr, c'est romancé, hein, on va le dire. Mais ton idée, quand même, il fallait y penser, puisque donc il va y avoir le paysan, comme tu disais, mais ça va être généralisé, où à l'époque, les hommes étaient au front, hein, donc qu'est-ce qui se passait? Si les gens restaient longtemps dans une ferme, il y avait des atomes crochus.
Et d'ailleurs, le bruit en a circulé dans ma famille. C'est aussi que ma grand-mère avait eu avec ce paysan allemand des relations qui n'étaient pas qu'agricoles. Voilà. Et alors, l'idée m'est venue, mais je dis, mais ces paysans français qui étaient dans des fermes allemandes, avec ces fermières allemandes, parce que les hommes et les femmes sont ainsi, hein. Oui. J'imaginais mal un homme et une femme qui vivent pendant 4 ans sous le même toit, en ne parlant que d'agriculture, quoi. Et voilà, j'avais mon roman en tête, quoi. Alors, par contre, je l'ai écrit en 2 parties, parce que aujourd'hui tous les historiens sont d'accord pour convenir qu'en fait il n'y a pas eu de guerre mondiale, il n'y en a eu qu'une seule, puisque la seconde est découlée directement de la première. Donc j'ai écrit un roman en deux parties, première partie en 14-18 avec les personnages de cette époque, et puis deuxième partie en 44 au moment de la libération avec les enfants de ces personnages, voilà.
Oui, alors bon, on dévoilera pas la fin du roman, bien sûr, ça. Oui, alors c'est vrai que c'est cette idée que tu as eue d'aller sur 14-18, puis 39-45. Alors bien sûr, on a vu que des couples se sont formés, et des couples sont nés des enfants. Et c'est cela qu'on va retrouver en 39-45.
Je n'ai situé la deuxième partie de mon roman que dans le volet en août 44, au moment de la libération. Voilà. Et alors là, je remercie Pascale Blasi, parce qu'elle m'a communiqué les travaux de l'historien local, M. Morin, qui a fait vraiment un travail de recherche sur la libération du volet et de Saint-Paulien en particulier. Et je me suis beaucoup inspiré de ces travaux pour écrire la deuxième partie de mon roman. Mais je n'ai pas situé de combat à Saint-Paulien, je les ai situés dans le Velay, du côté du pont de la Chamalière, qui a eu un rôle stratégique à cette époque.
Oui, mais c'est ce qu'on disait, en fait, puisque les Allemands, ils se repliaient. Hein. Donc, en fait, ils ont suivi la route depuis, en passant par Saint-Paulien, par Bellevue, Craponne, jusqu'à Estivareil, où il y a eu des gros combats.
Ils avaient abandonné le Puy. Et l'objectif, c'était Lyon. Donc la Wehrmacht voulait regrouper toutes ses forces sur Lyon pour pouvoir ensuite rejoindre l'Allemagne. Donc pour aller à Lyon de Saint-Paulien, il fallait d'abord passer par Saint-Étienne, etc. Et pour aller à Saint-Étienne, il fallait passer sur le pont de la Chamalière. Et là, c'était vraiment des combats extrêmement durs.
Alors bon, est-ce qu'on peut dire un peu les enfants, on peut en parler ou c'est...
Ah mais c'est toi qui décides.
Hein. Non mais trop, c'est trop avancé dans le roman, non?
Non, vas-y.
Alors oui, justement, puisqu'on en a parlé il y a récemment tous les deux. Alors c'est vrai qu'il y a deux enfants qui vont naître, une fille et un garçon. Et donc en 44...
Les prisonniers rentrent chez eux. Et quand ils rentrent, eh bien ils savent que les deux fermières avec lesquelles ils ont passé ces 4 ans sont enceintes. Il y en a, la fermière allemande a même mis son bébé au monde un peu plus tôt. Et en 44, il y a un jeune officier allemand qui arrive du front russe, parce qu'on a retiré des troupes du front russe pour pouvoir combattre la résistance en France. D'ailleurs, là, je le cite, je l'avais déjà vu dans un autre roman, puis je l'avais déjà vu dans des lettres que des soldats allemands écrivaient à leur famille en Allemagne. Ils disaient, les Français, c'est une phrase qui est dure, les Français s'imaginent qu'ils sont en guerre, mais si vous voyez ce qui se passe en Russie, ils sauraient qu'ils sont en paix. En Russie, c'était à peu près 10 000 morts par jour, hein, c'était terrible. Alors quand les soldats allemands, quand on voulait donner aux soldats allemands du repos, on les retirait du front russe pour les envoyer en occupation en France, parce qu'en France, c'était considéré comme tranquille, quoi. Et alors, ce jeune homme, il arrive donc à Saint-Paulien, c'est un officier brillant, il est jeune, il a fait tous les combats, 40, tout, et puis il est chargé donc de réprimer la résistance dans le volet. Et en face, il y a une jeune femme qui est infirmière à Émile Roux, et qui a vu ce qui se passait, et elle décide de s'engager dans la résistance. Mais c'est une femme qui a l'esprit libre, et elle constate tout de suite que la résistance, c'est comme toutes les institutions, comme toutes les organisations, c'est lourd, et ça ne lui plaît pas. Donc elle décide de constituer elle-même son groupe de partisans, ce qu'on appellerait un corps franc. Et... donc, à l'occasion des combats de la Chamalière, justement, eh bien, ce jeune officier allemand va être fait prisonnier par le groupe de partisans de cette jeune femme. J'en dis pas plus. Voilà.
Oui, c'est pour ça. Alors bon, donc, on vous le disait, on est à la médiathèque de Saint-Paulien avec Albert Duclos qui nous présente son dernier livre, Les Amours prisonnières. Mais avec nous, alors ça c'est un peu nouveau, c'est ce que je disais en commençant, on a Monique, Michel, Annie et Chantal qui sont des lectrices fidèles et assidues, comme j'ai cru comprendre, hein, à Saint-Paulien, qui viennent souvent à la médiathèque. Ben, on va leur demander un peu, tout d'abord je vais vous demander votre première réaction, mes réactions comme ça, dès que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intrigue? Allez, on va commencer avec Monique. Alors Monique, allez-y.
Moi j'ai bien aimé, ça m'a tenue en haleine tout le long du livre, voilà. Oui.
Et l'intrigue, vous l'avez trouvée sympa?
Oui, j'ai trouvé sympa.
Fallait y penser, quoi.
Oui, fallait y penser. Puis bon, pour la fin aussi.
Donc là, je crois que c'est Michel.
Oui.
Ouais, je ne me trompe pas, c'est bien.
Alors, moi, Michel, j'ai effectivement, le suspense nous tient en haleine jusqu'au bout. On a envie d'aller au bout. Et moi, j'ai juste trouvé la deuxième partie un peu courte par rapport à la première. Voilà.
Oui, parce que la deuxième partie, en fait, elle se déroule sur une durée d'un mois. Hein. C'est août 44, c'est tout. Mmh. Alors que la première, c'est sur 4 ans. Quoi. Mmh. Voilà.
Oui, mais c'est vrai que j'ai
oui, mais c'est vrai que voilà. La première partie occupe à peu près les deux tiers du roman, alors que deux ou trois quarts. Quoi. Mais trois quarts, oui. Ça correspond un petit peu à la durée historique. Hein. Mmh. Voilà.
Il faut que tu fasses un deuxième, toi, Albert.
Mais j'ai pas voulu, parce que là, ça m'aurait entraîné trop loin, j'ai pas voulu faire une deuxième partie qui recouvre la période 40-44, puis c'était pas du tout mon objectif.
Adiez-vous.
Moi, au début, j'étais un peu déroutée par ce prisonnier allemand de la Première Guerre mondiale, parce que je sais pas s'il y a eu beaucoup d'échanges en 14, de prisonniers comme ça, de ferme à ferme. Il me semble que les prisonniers étaient plus dans des camps.
Alors, ce que vous dites est vrai, sauf pour les paysans.
Ah oui,
parce que les usines, tout ce qui est automatisé, on les faisait tourner avec n'importe quel homme, puis souvent oui. Même les femmes, parce ouais. Que c'était les femmes qui fabriquaient les armes dans les usines d'armement. Ouais. Mais par contre, être paysan, c'est un vrai métier, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Donc les paysans, on les orientait directement sur des fermes. Ouais, mais c'était pas un échange. Hein.
C'était pas un échange. Alors,
c'est le fait du hasard.
Oui. Hein. C'était pas du tout un échange. Les prisonniers de 14 soient dans une ferme, moi je les voyais plus dans des camps. Voilà.
Non, parce qu'on avait besoin d'hommes dans les fermes. C'est ce que j'ai voulu montrer, et c'est l'imbécilité de la guerre, parce que vous connaissez la définition d'une guerre. Les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui se combattent entre eux pour le compte de gens qui se connaissent et qui ne se battent pas. Voilà, c'est ça la définition de la guerre. Donc, moi, ce que j'ai voulu montrer, justement, cette imbécilité de la guerre, il aurait été si simple que chacun reste chez soi.
Bien sûr.
Qu'on a bien vu qu'après, une fois qu'il y a eu à peu près, je crois que c'était 1,5 million de morts en France, eh bien, il fallait bien faire la paix. Parce que, pourquoi on a fait la paix? Parce que les peuples étaient épuisés.
Chantal.
Eh bien, moi aussi, j'ai trouvé le livre...
Ah, ça va peut-être un film, c'est une idée.
En fait, le livre très agréable à lire, et puis honneur aux femmes.
Oui, parce que ce sont les vraies héroïnes. Voilà. Ce sont les vraies héroïnes du roman. C'est elles qui font tourner les fermes, et puis c'est elles qui élèvent les enfants, et tout, quoi.
Ben, c'est ce que tu disais, la guerre de 14, c'est les femmes qui ont fait tourner l'économie. Hein. Voilà. On se rend compte, on disait les morts, il n'y a qu'à regarder dans chaque commune le nombre de personnes qui ont été tuées à la guerre de 14-18. Ouais. C'était un massacre. Ouais. Hein. D'ailleurs, il fallait que ça s'arrête, parce que sinon...
Il faut quand même savoir que tous les hommes, pratiquement de 18 à 50 ans, étaient mobilisés.
Ouais.
Et puis, au-delà de 50 ans, on leur confiait des tâches de surveillance. Donc dans les rues, d'ailleurs, lorsque mon héroïne va à la mairie de Saint-Paulien pour réclamer un prisonnier, il n'y a plus que des vieux. Et elle voit le maire de Saint-Paulien qui lui-même est un vieillard. Et tous les hommes, entre 18 et 50 ans, pratiquement, sont sur le front. Donc il faut se mettre à l'image de la France à cette époque. Il n'y a plus que des femmes dans les rues, quoi, pratiquement.
Oui, puisque tous les hommes sont sur le front.
Avec des pertes considérables.
Ben oui, beaucoup ne reviendront jamais.
Je me souviens, quand j'ai écrit 2-3 romans, j'aime bien aller au cimetière pour voir les noms locaux, quoi, pour donner une consonance locale, une consonance terroir. Et je vais souvent voir le monument aux morts. Et moi, je me souviens, ça m'avait vraiment impressionné, c'était le monument aux morts du village de Chanteuge, quand j'avais écrit les larmes de Chanteuge. Eh bien, on comprend qu'aujourd'hui, la France rurale, elle a disparu, parce qu'elle a été saignée à blanc par la guerre de 14. Alors, la guerre de 40-44 était extrêmement douloureuse, Mais je crois qu'en tout, ça fait 350 000 morts, la guerre de 40. Alors que 14-18, c'est 1,5 million de morts. Et puis, je compte pas les blessés. Et sans compter en Allemagne, alors c'était encore pire. La saignée était encore pire. Et puis, en Russie, c'est quand même la Russie qui a eu le plus de morts. Après, c'était l'Allemagne, puis après, c'était la France. Puis après, les Alliés, les Anglais, les États-Unis, le Canada, etc., quoi.
Donc on parle aujourd'hui de ce livre d'Albert Duclos, Les Amours prisonnières. On est à la médiathèque de Saint-Paulien. Alors tout à l'heure, Chantal a dit qu'elle a bien aimé, elle, parce que les femmes étaient mises en avant. C'est votre avis, Monique, aussi?
Oui, c'est mon avis. Oui,
vous
oui.
trouvez que les femmes, on n'en parle pas assez?
Oui, finalement, oui. Oui, oui, puis bon, elles travaillaient, comme vous dites, elles élevaient les enfants. Bon, elles avaient beaucoup à faire, et toutes seules.
Ouais.
Oui.
Oui. Michel, même réaction.
Le personnage de Colette particulièrement, c'est un personnage très fort. Et... Mmh. Oui, c'est...
Mmh. Ah oui, puis quand elle entreprend, parce qu'elle aime son mari, elle veut savoir où il est, et quand elle entreprend...
Elle entraîne sa fille.
Oui, elle entraîne sa fille Dominique, qui va être le personnage principal de la seconde partie du roman. Elle entraîne sa fille qui a 2-3 ans, traverser toute la France, toute la Suisse, toute l'Allemagne pour retrouver son mari. C'était une sacrée expédition. D'ailleurs, Ludwig, là, le prisonnier allemand qui est avec elle, lui dit « Mais vous êtes folle, on ne peut pas y arriver. » Puis elle va y arriver.
Annie, c'est même réaction.
Oui, c'est le début de la libération de la femme. C'est les premières années.
C'est les premières féministes.
Oui, voilà, je pense. Oui.
Ce que vous dites est vrai. C'est la guerre de 14-18 qui a... oui, parce que elle a mis les femmes en situation de responsabilité. Voilà. Et quand les hommes sont revenus, enfin les survivants, quand les hommes sont revenus en 18... Eh ben, les femmes avaient pris des habitudes de responsabilité, de liberté, et ça a été difficile de les remettre à la cuisine. Ouais, quoi. Oui. Et en 1945, lorsque De Gaulle a décidé de donner le droit de vote aux femmes, il l'a fait parce qu'il avait constaté que pendant la résistance, les femmes avaient une conduite souvent beaucoup plus courageuse que celle des hommes, même si elles n'étaient pas en avant. Voilà.
Donc Chantal, c'est vous qui avez lancé le débat sur les femmes. Il faut nous expliquer. Pourquoi c'est ça qui vous a capté tout de suite ou c'est...
Peut-être pas tout de suite, mais bon, c'est vrai qu'au fil du roman, on voit que ces femmes prennent le pouvoir, quoi. Elles sont courageuses, elles... Je sais pas comment trop dire.
Oui, alors, si on regarde ça, moi, c'est aussi un hommage que j'ai voulu rendre à ma grand-mère et à ma mère. Parce que ma grand-mère a été toute seule par ce prisonnier pendant 4 ans, à tout faire tourner. Et puis mon père a été fait prisonnier en juin 40. J'ai écrit un roman là-dessus, d'ailleurs les Citadelles d'Orgueil. Et il n'est rentré qu'en mai 45. Ce qui fait que ma mère a été toute seule à la maison avec ma sœur aînée et moi-même, puisque mes deux frères cadets sont nés après le retour de mon père. Et c'est vrai que je fais partie de cette génération d'hommes qui ont été élevés par des femmes. Moi, j'ai été élevé par des femmes, voilà. Et c'est un peu un hommage que j'ai voulu rendre, donc, à ma grand-mère et à ma mère.
Alors, je ne sais pas si dans ton livre, tu as cette réaction, mais bon, l'Allemand qui est en France, le Français qui est en Allemagne, ils font des petits aux deux fermières. Quand ils se retrouvent, comment ça se passe? C'est pas simple, quand même.
Ça se passe très très mal, parce qu'ils se retrouvent... accidentellement sur une route parce que Jean veut s'évader et puis il profite qu'un camion allemand s'arrête, le chauffeur et l'autre soldat se sont arrêtés pour satisfaire un besoin urgent naturel. Et quand il s'aperçoit de ça, il y a donc deux prisonniers français évadés qui se sont cachés avec lui dans une sorte de meule de foin pendant la nuit, et il leur dit, puis il y en a un qui a le malheur de dire: oh, mais moi j'étais garagiste au puits. Ah ben, puisque tu es garagiste, allez, tu prends le volant et on fonce. Et ils foncent, surtout t'arrêtes pas, ils foncent, et puis paf, ils vont tuer Ludwig qui lui arrive. Et puis alors là, bien sûr, la femme de Ludwig ne va jamais pardonner qu'on ait... Parce que c'est un drame sentimental. Elles sont tombées amoureuses, pourquoi? Parce que par manque d'hommes, hein. Mais en fait, elles aiment leur mari. Et elle va jamais pardonner qu'on lui ait tué son mari. Et elle va faire promettre à son fils, qui a 5 ans, quand tu seras en âge d'homme, tu vengeras, promets-le-moi, tu vengeras ton père. Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que tout à l'heure, j'ai déjà parlé.
Oui, c'est sûr, on ne va pas aller au fond du roman.